Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio. Le commentaire de
Mathieu Boccoté. Dépensé, pas comme les autres.
Mon cher Mathieu, je sais que tu voulais me parler de Donald Trump, mais je veux t'envoyer sur deux autres sujets. Je sais que t'es comme un excellent musicien, t'es capable d'improviser à merveille. Donc, écoute,
vas-y.
Ok, premier sujet, ça prend une traductrice noire pour traduire le recueil d'Amanda Gorman, qui est une poétesse noire.
Alors, oui, en irlandais, oui, j'ai vu passer. c'est la logique racialiste qui se déploie dans une forme d'intégrisme racial. Cette idée que, bon, j'ai entendu que seuls des professeurs noirs pouvaient enseigner à des enfants noirs. On a cette idée que seuls des noirs peuvent représenter des noirs, ou inversement, des blancs peuvent représenter des blancs. Enfin, on peut faire la longue liste. Et bien là, désormais, une poétesse noire ne peut être traduite que par des poètes noirs, des traducteurs noirs. Donc, c'est la logique, non seulement racialiste, mais on va y aller, on va quand même au niveau, c'est une logique raciste. Peu importe. Le racisme, aucun groupe n'en a le monopole. Dès lors, c'est une survalorisation de l'identité raciale sur le mode de la ségrégation, d'une ségrégation revendiquée, d'une ségrégation officialisée, d'une ségrégation valorisée. Et tout ça au nom du progressisme, faut pas l'oublier. Tout ça au nom de l'émancipation. Tout ça au nom de l'émancipation des dites minorités. On est dans une logique raciale pure et simple. Et devant cela, ça ne suscite pas vraiment l'indignation. Faut pas se tromper. Dans le grand système le système médiatique mondial, le système universitaire, on a plutôt tendance à trouver que c'est légitime et que c'est une demande légitime de représentation. Si tel est le cas, eh bien, nous basculons dans la politique du silo ethnique, dans la politique du silo racial. C'est une logique qui nous conduit inévitablement, tôt ou tard, au conflit entre les gens selon la couleur de la peau. Et on nous présente tout. Et s'inquiéter de cela, ne l'oublions pas, peut nous valoir l'étiquette d'homme d'extrême droite et ainsi de suite. Ça devient
loufoque. Mais là, Mathieu, un blanc peut pas comprendre le texte d'un noir, mais là, est-ce que ça va prendre une femme noire? Parce qu'un homme noir, j'imagine, ne peut pas comprendre une femme noire. Est-ce que ça va prendre une jeune femme noire? Parce qu'une vieille femme noire ne peut pas comprendre une jeune femme noire. Tu sais, c'est l'intersectionnalité aussi. Est-ce qu'on va, là, tu sais, on ajoute toujours un critère de plus?
Mais oui, mais on rajoute toujours un critère de plus. C'est dans la logique même de toujours rajouter un critère de plus pour être toujours représenté par le segment identitaire le plus étroit auquel on peut s'identifier. En dernière instance, on arrive à cette idée que c'est l'enfermement en soi-même. Personne d'autre que soi-même ne peut se représenter.
Il n'y
a plus d'identification sociale. C'est en fait, on est en train d'entrer dans une espèce de délire idéologique, de délire racial partout en Occident, qui nous vient des États-Unis, mais qui a une espèce d'effet de contamination idéologique. Et des choses comme ça vont se multiplier, sans le moindre doute. Un cas comme celui-là devrait, dans un monde normal, il y a trois ans, on aurait dit ça, ça aurait provoqué un scandale immense. Aujourd'hui, on n'est pas loin de dire que le scandale, c'est de s'en inquiéter. C'est quand même quelque chose d'étrange, là. S'inquiéter du racialisme, c'est désormais une forme de pensée réactionnaire inacceptable. On bascule dans un monde parallèle.
Écoute, je parlais en début d'émission du film Moonlight qui avait gagné l'Oscar du meilleur film il y a quelques années, qui était un film seulement des Noirs. Tous les comédiens étaient Noirs et c'était sur un homosexuel noir qui était victime de discrimination. J'ai vu ce film-là et j'ai pleuré parce que je me suis identifié à un jeune noir d'un ghetto homosexuel, et pourtant c'était moi, tu comprends? Je me suis extirpé de moi-même. Quelle est la difficulté de ces gens-là à s'extirper d'eux-mêmes?
Ben parce que c'est vu comme une espèce de fraude intellectuelle. On nous explique aujourd'hui que la vérité, c'est de s'assumer comme sujet racial. C'est ce que nous dit Robin DiAngelo, c'est qu'il faut désormais s'assumer comme sujet. Donc la théoricienne de la fragilité blanche, c'est ce que nous dit Ibram X. Kendi, c'est il faut assumer notre position raciale. Et dès lors, dans une société où l'expérience raciale serait fondatrice et insurmontable, eh bien, prétendre s'identifier à notre expérience raciale que la sienne, en dernière instance, ça peut même être de l'appropriation culturelle, une forme d'appropriation psychologique d'une histoire qui n'est pas la sienne. S'identifier, et c'est on arrive dans tout cette espèce de délire où, selon cette logique de l'identification raciale, dois-je, lorsque je regarde les États-Unis des années 50, 60, m'identifier aux Blancs qui résistaient à la ségrégation, ou dois-je m'identifier aux Noirs qui luttaient pour l'émancipation, les droits civiques et ainsi de suite? Est-ce qu'on est vraiment... Évidemment, il y avait la figure là-dedans, il y a l'allié légitime, alors que ça, qu'on peut apprécier dans ce portrait, mais est-ce qu'on est rendu à cette idée que je dois en dernière instance m'identifier aux Blancs ségrégationnistes plutôt qu'aux Noirs qui luttaient contre la déségrégation, contre la ségrégation? C'est quand même débile, cette logique-là. On est dans une logique qui nous conduit inévitablement à l'identification raciale systématique. Et inversement, si on décide de s'identifier à quelqu'un d'autre, une autre histoire que la sienne, mentalement, psychologiquement, parce que la culture, c'est ce qui permet d'être autre chose que soi-même par le travail de la pensée, eh bien ça, ce serait un geste d'appropriation culturelle et d'impérialisme culturel. On est dans une espèce de délire, et ce qui est tragique, c'est que c'est quand même un délire subventionné, un délire alimenté par les universités, un délire alimenté par les médias publics, et résister à cela vaut aujourd'hui réputation d'infréquentable, de réactionnaire, pas loin de alt-right, ultra-lala. On se demande comment stopper ça, parce que la machine est lancée, elle n'est pas à la veille de s'arrêter.
Non, et moi, j'aimerais le rappeler à ces gens-là, la phrase de Camus qui est extraordinaire. Un homme fait de tous les autres hommes qu'il est vaut tous et que vaut n'importe qui. On est tous pareils. L'universalisme.
Ben oui, mais vraiment, mais ça, c'est le génie de l'universalisme, c'est quand même, me semble-t-il, alors c'est le paradoxe, l'universalité est ancrée dans une tradition, dans l'histoire, parce qu'il a fallu que ça apparaisse quelque part. Et de ce point de vue, la tradition chrétienne, qui est ensuite muée en tradition universaliste, c'est une forme de continuité invisible mais réelle entre le christianisme et les Lumières. Hein, c'est-à-dire, c'est cette idée d'universalité, et ensuite on l'a décroché du ciel, mais c'est cette idée d'universalité, l'universalité des hommes devant Dieu, l'égalité des hommes devant Dieu, ensuite l'égalité de la valeur des hommes, on enlève la référence divine, mais cette idée d'égalité des hommes, cette idée d'égale dignité des hommes, c'est quand même, me semble-t-il, le sel de la tradition occidentale, c'est la meilleure part de la tradition occidentale, elle a besoin pour s'accomplir de conditions d'un État, de nation, de culture, mais il y a cette idée qu'en chaque homme, je peux reconnaître un égal, je peux reconnaître un frère, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit... C'est quand même un principe fondamental. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frontières, qu'il n'y a pas de pays, qu'il n'y a pas d'État, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas de civilisation. Toutes ces choses-là sont importantes. Mais il y a ce refus du cloisonnement en soi-même. Il y a cette idée que je peux toujours voir en l'autre un frère. Ce qu'avait dit Tocqueville aussi dans la démocratie en Amérique. Hein. C'est le principe de l'humanité moderne. Mmh. Et bien, devant tout cela, nous sommes invités aujourd'hui à nous replier vers une version à prétention progressiste de l'Afrique du Sud ou des États-Unis de la ségrégation. Non, merci. Non, merci. Franchement, je n'ai nulle envie de sacrifier le légitime universalisme qui nous rapproche, soit dit en passant, de la meilleure part de la France.
Tout à fait. Écoute, mon deuxième sujet, lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde actuellement, en Chine, avec les Ouïghours, 1 million de personnes dans les camps de concentration, lorsqu'on voit l'Arabie Saoudite, le prince héritier qui a commandé l'assassinat, le démembrement d'un journaliste, lorsqu'on voit en Iran les femmes et tout ça, où sont nos militants gauchistes? Ce que j'écris aujourd'hui, est-ce que tu les vois manifester devant l'ambassade de Chine? Est-ce que tu les vois manifester devant l'ambassade d'Arabie Saoudite? Non. Ils se foutent du reste du monde.
Oui, absolument. Ça c'est l'égocentrisme inconscient d'une partie, pas de toute la gauche, mais d'une partie de la gauche occidentale qui ne cesse de se maudire, hein, et qui veut voir une forme de logique de totalitarisme archaïque dans le fait de reconnaître que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Ça, faut déconstruire ça. Mais quand on est devant de vraies tyrannies, eh bien, soit parce que cette idée, même Joe Biden nous dit, ouais, c'est des différences culturelles en Chine, on peut pas, ils ont pas le même rapport aux droits de l'homme. Bon, ben, OK, là, mais rions quand même de bon cœur devant une telle affirmation. C'est-à-dire, on renoue avec cette idée que finalement, mais en certaines cultures, la valeur humaine pèse peu et on s'obstinera de juger. Alors moi, sur le temps passant, je suis loin d'être un partisan des interventions extérieures. Je pense qu'on a payé le prix des années Bush là-dessus. Moi, le changement de régime, on a fait ça avec l'Irak, on a fait ça en Libye. On a vu ce que ça a donné.
Non, mais au moins manifester notre indignation et notre soutien aux gens qui se battent là-bas, là.
Eh bien voilà, c'est exactement ça. Entre le changement de régime, qui est une forme d'hubris propre aux néoconservatifs américains des années 2000, et la complaisance absolue aujourd'hui, me semble-t-il qu'il y a cette légitime dénonciation de tout cela, mais le progressisme mondain s'inquiète davantage, justement, aujourd'hui des nouvelles causes sociétales portées par les mouvances les plus radicales, plutôt que par la situation réellement inquiétante.
Et t'as entendu le premier ministre, c'est quoi? C'est de Nouvelle-Écosse, je crois, qui disait... On n'a pas de leçon à donner aux Chinois. Ils sont comme ils sont. Ils ont leurs valeurs et nous avons les nôtres. Et bon, franchement. Là.
Oui, mais c'est vraiment cette idée que l'Occident est tellement coupable qu'il doit absolument, il doit s'autocritiquer jusqu'à l'extinction, jusqu'à l'autodisparition et ne pas être capable de voir l'authentique violence qui est comme le nez au milieu du visage dans certains régimes, dans certains pays. Là, on détourne le regard et on décide de se détourner de ce génocide que je ne saurais voir.
En tout cas, c'est incroyable le manque d'universalisme. Vraiment, on est...
Oui, c'est une des grandes failles de la pensée contemporaine, je crois. C'est la déconstruction de l'universalisme au nom du progrès. On ne l'avait pas vu venir et pourtant on y est.
Oui, puis ils vont dire les valeurs des Lumières, tout ça, ben c'était des Blancs, ça. C'est des valeurs blanches, la liberté...
Non, mais les Lumières est une forme d'impérialisme blanc et ainsi de suite, alors qu'on oublie que c'est justement... dans cet universalisme qui est une condition de progrès qui était capable d'emporter de manière inégale parce que l'humanité, c'est pas le paradis, parce que le développement des sociétés fonctionne pas partout au même rythme, mais ça a quand même été un facteur de progrès. Mais non, derrière tout cela, il faudrait voir que l'impérialisme blanc, on commence à connaître la chanson.
Mais c'est sûr qu'il faut pas non plus imposer les valeurs des Lumières et les valeurs occidentales à la pointe du fusil comme préconisait Bernard-Henri Lévy, par exemple, en Syrie. Là, on fait pas ça.
C'est Bush 2003. Non, mais moi, là-dessus, je pense qu'il y a un traumatisme déterminant. C'est Bush 2003 en Irak, moi, cette espèce de démocratisme casqué et botté, je dis non. Je pense que là-dessus, cette espèce d'impérialisme démocratique a fait faillite, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que ça nous empêche, donc ça, c'est l'impérialisme militaire, on s'entend. Est-ce que ça nous empêche de croire à la légitime défense de ces idéaux, à tout le moins chez nous, et lorsqu'on rencontre ces autres pays, eh bien, de leur rappeler néanmoins l'idée qui est la nôtre d'une certaine idée du progrès. Ça ne veut pas dire ensuite qu'on va se mettre à faire de l'ingérence, d'autant qu'on voit la politique a ses droits, la real politique a ses droits, mais il y a un domaine propre, me semble-t-il, au jugement moral, qui devrait pouvoir s'exercer, et surtout, encore une fois, à nos spécialistes et agités ici qui voient partout les tyrannies dans nos propres frontières, eh bien, il ne devrait pas leur être interdit à tout le moins d'avoir quelques considérations et pensées pour ce qui se passe ailleurs, là où on voit d'authentiques massacres.
Tout à fait. Écoute, on se reparle de Trump demain. Excellente journée,
Au
Mathieu.
Au grand plaisir.
Merci.
Bye bye.